Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour, amen, pour notre justification, comme l'enseigne clairement Romains 4, 25. Il est mort en étant condamné à notre place. Il est ressuscité pour pouvoir nous déclarer justes. Il est ressuscité le grand vainqueur. Et je vous propose donc ce matin de relire les dernières paroles de Jésus-Christ que l'on trouve à la toute fin de l'évangile de Matthieu. Et je relirai tout le chapitre 28 avec vous maintenant. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. » Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent. En ajoutant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à la méditer, à l'entendre, à la recevoir maintenant. Et qu'elle transforme nos vies et nous équipe pour la suite. Quelques remarques du début du chapitre avant de méditer plus à fond le dernier paragraphe. Il est question d'une merveilleuse bonne nouvelle le premier jour de la semaine. Ce jour est devenu jour de fête pour tous les chrétiens. Et nous fêtons chaque dimanche en général la joie d'être sauvé, la joie de lui appartenir, parce qu'il est ressuscité. En ce jour-là, encore Jésus a répété, l'ange l'a dit, n'ayez pas peur. C'est le jour d'une merveilleuse bonne nouvelle. Il est ressuscité, il n'est pas ici, comme il l'avait dit. Vous le retrouverez en Galilée, vous pouvez aller vers lui. Étonnamment, les femmes sont remplies de joie et de crainte. Verset étonnant, verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Un verset qui nous rappelle plusieurs choses. La cohabitation tout à fait possible entre la joie débordante et la crainte du Seigneur. Ça va parfaitement ensemble. Et ce verset, du coup, nous rappelle que la crainte dont il est question ici, la bonne crainte du Seigneur, n'a rien à voir avec l'affolement, avec ce qui nous fait partir en courant, avec les angoisses. Mais c'est la crainte de ceux et celles qui ont un immense respect pour celui qui est le grand vainqueur. Émotion maximale en ce jour, crainte et joie. Deuxième remarque concernant les premiers versets, il est question d'une tricherie fortement préparée et accompagnée par une bonne somme d'argent. Les gardes sont allés raconter ce qui s'est passé et les chefs religieux, après avoir discuté entre eux, ont décidé très clairement qu'ils ne pouvaient pas laisser passer l'idée que peut-être Jésus était ressuscité. Donc, ils expliquent aux gardes ce qu'ils doivent dire et pour les aider à obéir, ils financent. Et si jamais, malgré le financement, ils se retrouvent en difficulté, les mêmes chefs religieux leur promettent d'être à leur côté et de les tirer d'affaire. Non seulement on vous paye pour raconter quelque chose de faux, mais on reste à vos côtés, on reste en contact et on vous tirera d'affaire si jamais cela vous attirait des ennuis. Et le bruit s'est répandu. Il n'aurait peut-être pas eu besoin de faire tout cela et de payer pour que le bruit se répande, mais ils l'ont voulu. Et le fait est là. Le bruit s'est répandu que Jésus n'était pas ressuscité des morts, mais que c'était toute une histoire montée par ses proches. Et enfin, fin du chapitre, une merveilleuse nouvelle à annoncer. Et je vous propose de repérer trois grands enseignements devant cette fin de l'évangile de Matthieu. Notre faiblesse, une grande mission et une grande promesse. Tout d'abord, quelques remarques sur notre faiblesse avec le verset 17. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que vous êtes étonné? Moi, oui, quand même. Comment on peut vivre cela, être devant le Maître et avoir des doutes? C'est quand même étonnant. Malgré tant de bienfaits, malgré tant de manifestations claires et visibles, éclatantes, pour beaucoup d'entre eux, malgré 3 ans d'enseignement incomparable, ils n'ont pas fait 3 ans dans un institut biblique de haut niveau, ils ont vécu 3 ans avec le Maître. Et malgré tout ça, malgré la résurrection qu'ils viennent de vivre et de constater, ils ont des doutes. C'est vrai que le Seigneur leur dit qu'il va partir et qu'une fois de plus, c'est difficile de comprendre, quand même. C'est difficile de suivre ce qui se passe. Et puis, je vous propose de recevoir ce témoignage que Matthieu nous fait connaître en étant encouragé de voir à quel point la condition humaine est enseigné, reflété, évoqué par l'Évangile et par la parole de Dieu, c'est bien notre situation. Nous pouvons avoir des doutes, nous pouvons être fragiles malgré de grandes manifestations de bonté de la part du Seigneur. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Un verset qui m'encourage beaucoup, psaume 103, verset 14. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Il y a 2 lectures, une qui n'est pas du tout appropriée, où l'on pourrait se vexer. Bon, elle doit exister, mais elle est vraiment inutile et je la mets de côté. Et il y a la lecture principale que je vous propose, l'encouragement énorme des croyants qui lisent que Dieu sait que nous sommes petits et qu'il ne va pas nous regarder de travers en disant « Mais quand même, avec tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu fabriques ?» Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est un immense privilège que de lire que notre Dieu sait que je suis très fragile. Certains d'entre vous en doutent, mais le Seigneur le sait. Et moi aussi, j'ai mon lot de preuves. Et moi aussi, j'ai mes doutes. Et je demande au Seigneur de fortifier ma foi. Ce matin, en prenant un de mes cafés, j'étais en face d'un magnifique cerisier. Magnifique. Certains le connaissent. Et j'ai repensé au miracle de la pollinisation. Bientôt, petit scoop, on aura peut-être l'occasion de s'émerveiller ensemble à la miellerie des Cotates et au centre d'apiculture qui semble être à l'horizon. Je ferme la parenthèse. Mais c'est quand même extraordinaire que quelqu'un, et comment voulez-vous que ce soit autrement que par quelqu'un, que quelqu'un ait voulu que les fruits aient besoin des abeilles pour exister. C'est quand même difficile, j'ai repensé ce matin, de croire qu'il n'y a pas quelqu'un d'intelligent, de sage, de bon, de bienveillant, de tout-puissant qui est là derrière. Quand même. Comment la nature, si elle s'était faite toute seule, n'aurait pas inventé quelque chose d'un peu plus simple avec simplement la séparation des cellules et puis d'autres, des fruits qui naissent d'autres fruits. Enfin, je ne sais pas, il me semble qu'il y avait plus simple. Nous avons la nature, Romains 1, devant les yeux. Et ce matin, en admirant ce magnifique cerisier, j'ai repensé à un jeune d'une église de Mulhouse qui avait témoigné aussi qu'il s'est converti en étant au bénéfice de la cicatrisation. Il s'est converti. Il a dit, mais c'est trop ouf. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Mon corps se répare tout seul entre guillemets. Et ça aussi, j'étais surpris d'apprendre que ce jeune s'est converti en pensant à cela. Mais je comprends qu'on peut être secoué, bouleversé, émerveillé, parce que notre corps est incroyablement façonné. Qui a donc bien pu faire cela, sinon un Dieu pensant, intelligent, tout-puissant, aimant, et que l'on voit du matin au soir? Mais celui qui vous dit cela avec le sourire, avec joie, est quelqu'un qui a des périodes de doute difficiles à gérer. Donc je suis heureux que l'évangile de Matthieu se termine avec cette information étonnante. Quelques-uns eurent des doutes. Que chacun dans cette salle se sente compris, vu, connu par le grand Dieu qui a inspiré l'évangile et qui sait que nous sommes faibles. Deuxième remarque devant ce dernier paragraphe de l'évangile de Matthieu, une grande mission. Allez, faites de toutes les disciples des nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Avant de partir, Jésus leur donne cette mission plusieurs fois enseignée, faire connaître l'Évangile. Et il leur redit avec tout ce que cela a d'étonnant, d'immense, d'impossible à réaliser. Vous avez peut-être entendu dire ce que j'ai un tout petit peu mis en évidence par le soulignement sur le texte, qu'il y a en fait un impératif et non pas quatre dans ce texte, et trois participes présents qui nous disent comment faire. L'impératif est souligné, faites des disciples. Mais n'ayez pas peur, si on y voit quatre impératifs, on ne fait pas fausse route, parce que les trois participes présents qui en dépendent sont bel et bien des choses qu'il nous faut faire. Mais l'impératif principal est faites des disciples. En allant, si on voulait traduire de façon un peu plus proche de la structure de l'original, en baptisant, en enseignant. Il nous faut donc aller. Il nous faut nous mettre en route, il nous faut sortir, il nous faut faire des efforts. Il nous faut aller vers l'autre et ne pas attendre qu'il vienne vers nous. Il nous faut prendre du temps, il nous faut tendre la main, il nous faut nous creuser la tête, etc. Il y a beaucoup de choses dans cet ordre que le Seigneur leur a laissé. Allez, bougez-vous, mettez-vous en route, ne ménagez pas vos efforts pour faire connaître la vérité, pour faire connaître l'Évangile. Deuxième participe présent, en baptisant, accomplissez les symboles que je vous ai laissés, suivez les ordonnances. Nous allons prendre dans quelques instants la Sainte Cène, prendre le pain et la coupe en nous souvenant du Seigneur. Et ici, dans ce texte, le Seigneur rappelle qu'il faut que les siens enseignent beaucoup de personnes en les baptisant et en les accompagnant dans l'engagement. Troisièmement, en les enseignant, pas avec les premières pages du catéchisme, mais en les enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, bienvenue dimanche prochain, bienvenue jeudi, bienvenue tous les jours pour votre lecture personnelle. Nous devons être dans une église qui encourage les uns et les autres à entendre tout l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses apôtres, aux disciples, pour qu'ils le transmettent au monde entier. Les églises doivent être marquées par cet attachement à l'enseignement de la vérité tout entière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé des enseignements pour que nous les fassions connaître complètement, et pas simplement quelques points forts qui nous tiennent à cœur. Et donc, au centre de tout cela, un ordre très exigeant. Faites des disciples. Ne vous contentez pas d'aider des personnes à répondre à l'Évangile, ce qui est déjà merveilleux, mais accompagnez tous ceux que vous rencontrez, tous ceux avec qui vous cheminez, pour qu'ils grandissent. Faites des disciples. Et la mission qui consiste à parler de Jésus-Christ au monde entier est évidemment impossible. Et si on entend qu'il nous faut non seulement en parler, mais qu'il faut aider les uns les autres à grandir et à être des disciples, alors c'est doublement et plus mission impossible. Toutes les nations, aller vers toutes les nations, c'est la deuxième ligne qui est encore sous vos yeux. Et là encore, je vous propose de prendre une minute de plus pour entendre à quel point l'ordre du Seigneur est étonnant, bouleversant à leur époque et impossible à toute époque. Aller vers toutes les nations, aucune barrière. Nous sommes appelés à accueillir toutes les ethnies, toutes les nations, tous les peuples. Ne lisons pas trop vite cette expression et ne minimisons pas le défi et les efforts que nous avons encore à faire pour être zélés, motivés, engagés, pour appeler toutes les nations, certains diraient « toutes les nations », pour être sûr qu'on comprenne que le Seigneur veut qu'on ne fasse aucune ségrégation. Et je vous propose de prendre quelques secondes pour réfléchir à ceux et celles vers qui vous allez moins facilement, vers qui nous allons moins facilement. Et ce texte m'enseigne que je dois faire des disciples de toutes les nations. Et je dois entendre derrière cette expression, toutes les cultures, toutes les personnes aussi différentes soient-elles, de quelqu'un qui est né dans un village du Jura. Toutes les nations. Ne lisons pas trop vite cette expression. Et je dois les enseigner en leur parlant de l'engagement que le Seigneur a voulu que ses disciples manifestent par le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une remarque sur cette formule trinitaire. Vous savez que le mot « trinité » n'est pas dans la Bible, mais nous avons devant les yeux une des nombreuses expressions qui nous disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bel et bien présents dans la révélation biblique. Et Jésus n'a pas glissé cela comme une formule théologique avant de partir. Merci de sourire. Il ne s'est pas dit, tiens, on va leur laisser encore une formule trinitaire. Mais il l'a rappelé comme une réalité fondamentale et très importante que je suis heureux de reméditer avec vous ce matin. Nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, en toute perfection, qui manifeste son amour en ayant envoyé le Fils, qui manifeste son amour en ayant été prêt à aller mourir à notre place, et qui manifeste son amour en nous accompagnant, en nous illuminant en tout temps. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas laissé seulement un défi impossible à relever, mais il a rappelé que c'est au nom du Dieu trinitaire que nous devons entendre l'ordre qu'il nous a laissé. Dernière ligne, la grande promesse. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Point. Fin de l'évangile de Matthieu. La phrase que j'étais heureux de reméditer avec vous ce matin, nous y sommes. Le grand Dieu trinitaire, dans la personne du Fils, s'approche et leur parle. Magnifique expression toute simple, Jésus s'approcha et leur parla. Une de mes prières, c'est qu'en ce moment même et tout au long de la semaine, nous soyons au bénéfice de celui qui continue à s'approcher. Il est celui qui nous aime au point d'être venu jusqu'à nous. Il est celui qui nous aime au point d'être tous les jours avec nous. Il est celui qui nous aime au point de s'approcher de ceux qui n'auraient jamais pu faire la moitié du chemin. Jamais. Le dixième du chemin. Si nous avions dû partager les rôles, c'était perdu. Jésus est celui qui s'approche et il leur parle. Il les enseigne. Il les aide à aller plus loin. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Deux choses en particulier que je relève. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Grande base de notre confiance en lui avec son amour. Non seulement il est rempli d'amour, mais il a tout pouvoir. Je prétends, allez j'ose, avoir beaucoup d'amour pour beaucoup d'entre vous. Je me suis limité à beaucoup. Mais qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie si je vous donne un ordre en vous disant « je suis avec vous ». J'ai tellement, tellement, tellement peu de pouvoir. Mais celui qui nous a donné l'ordre est celui qui peut dire « tout pouvoir m'a été donné ». Et ce matin même, il peut nous aider à faire quelques pas dans la bonne direction. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Et il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses qui me découragent, il y a des choses qui m'abîment, il y a des choses qui vous font du mal, il y a des choses qui me perturbent et qui vous perturbent parce que je suis perturbé, etc. Mais je lis avec vous ce matin que le Seigneur a tout pouvoir. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Tout pouvoir, tout. Rien ne le dépasse. Rien n'est plus fort que lui. Rien ne l'a fatigué pendant 45 ans. Rien n'est quelque chose devant lequel il peut se dire « mais je n'en viendrai jamais à bout ». Tout pouvoir a été donné à celui qui nous a demandé de proclamer la vérité et d'aller et de le faire connaître. Et enfin, je suis avec vous tous les jours. Je relis un verset du tout début de l'évangile de Matthieu. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Début de l'évangile de Matthieu. Fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, il ne dit pas « je m'appelle Emmanuel », mais il commente un de ses noms. « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. C'est un de ces noms, c'est une incroyable promesse et c'est ce qui nous permet d'être réunis ce matin. Il n'est pas là la plupart du temps, il n'est pas là quand on a un coup dur, il n'est pas là un jour sur deux, tout ce que vous voulez. comme variante. Il est là tous les jours, et nous comprenons que derrière tous les jours, il y a tout le temps. Ce n'est pas tous les jours à telle heure. L'expression « tous les jours » veut clairement dire « je suis à tout moment, en toute heure, à toute minute, à tout instant, je suis avec vous ». Il est le bon berger, tellement fidèle qu'à aucun moment, quelque chose ne lui échapperait de ma vie. Il est le bon berger qui marche parfaitement, jour et nuit, aux côtés de chacune des brebis que nous sommes. Conclusion, malgré nos faiblesses, il est question ici de doute, il est question de passages difficiles. Malgré nos faiblesses, elles sont très réelles. Entendons l'appel qui est à nouveau devant nos yeux et ne soyons pas découragés par tout ce qui est en nous instable, par tout ce qui est en nous perturbé, par tout ce qui est en nous insatisfaisant. Entendons cet appel immense. Entendons-le chacun, entendons-le en tant qu'Église et demandons au Seigneur, avec ses promesses et celles que nous avons plus eues devant les yeux ce matin, demandons-lui de vraiment nous aider à aller là où il veut que nous allions. Soyons pleinement confiants dans le bon berger, le Tout-Puissant, qui a dit « Je suis constamment avec vous ». Et je termine en donnant la parole à l'apôtre Paul. Oui, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et je fais une pause. C'est un texte que je lis, que nous lisons assez souvent. Mais il y a quelques jours, il m'a interpellé de façon nouvelle avec ce que je viens de méditer avec vous devant le Tout-Puissant. Ce texte dit que nous sommes vainqueurs. Et je demande à Dieu de nous aider à l'expérimenter dans tous les domaines de notre vie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.